Disciples missionnaires à l'école de Marie, voici une conférence de Sœur Claire du Rédempteur, conférence enregistrée lors du pèlerinage de la communauté des Béatitudes à Lourdes en juillet 2022. Disciples missionnaires à l'école de Marie, Sœur Claire du Rédempteur.
Donc pour moi, dans le titre de ce carrefour, l'important, c'est pas disciples missionnaires, c'est à l'école de Marie. Parce que les modes, ça passe, même si être disciple et être missionnaire, ça ne passe pas, puisque c'est l'évangile. Mais voilà, on va vraiment essayer de se mettre à l'école de Marie. Je vais commencer par une parenthèse. J'aime beaucoup les parenthèses. Dans les enseignements, parfois, c'est ça le plus intéressant. Alors, j'ouvre une première parenthèse. Je vous disais, enfin, dans la prière, mais je le crois profondément, Marie est présente au milieu de nous, elle est présente à l'Église, hein, elle est présente au corps que nous formons, et elle est aussi présente à chacun de nous, maintenant et aussi dans notre vie ordinaire. Je me permets cette parenthèse en raison du nom de la salle, donc qui est dédiée au pape Pie XII, hein, le pape du dogme de l'Assomption. Si je peux dire, et si l'Église croit en cette présence maternelle de Marie à l'Église, hein, mais également à chacun de nous, à chaque chrétien personnellement, individuellement, c'est en raison de l'Assomption, hein, en raison de ce dogme de foi qui nous dit que Marie est au ciel en son corps et en son âme, parfaitement glorifiée dans la plénitude de la gloire de Dieu, parfaitement arrivée à la maison. Et vous voyez, tout au long de sa vie terrestre, Marie était déjà notre mère. Elle était déjà notre mère. Et elle avait déjà conscience pour une part de sa maternité, hein, sur l'Église naissante. Et en même temps, elle vivait sous le régime de la foi, comme nous. Et donc, elle n'avait pas encore une conscience claire, précise, individuelle de chacun de ses enfants. Alors que maintenant que Marie est glorifiée pleinement dans la gloire de Dieu, dans la pleine vision de Dieu, en raison de cette union, de cette participation parfaite à la gloire de Dieu, Marie a une conscience et une capacité de présence à chacun de ses enfants. Donc, ça change quand même quelque chose, si vous voulez. Et donc, dire que Marie est présente à ma vie, qu'elle est présente dans ma vie concrète, oui. Que Marie me connaît mes joies, mes peines, mes aspirations, oui, on peut le dire. Ce n'est pas seulement une espérance, un peu de dévotion, quelque chose qui nous fait du bien au cœur parce qu'on a besoin de pas être tout seul, d'avoir une maman, mais c'est une réalité. Jésus nous a donné une mère, et une mère qui, aujourd'hui, dans la gloire de Dieu, peut se rendre présente à l'Église, bien sûr, et à chacun de ses enfants. Voilà, donc, je crois profondément que Marie est au milieu de nous maintenant, et que elle sait que... je connais pas tous vos prénoms, mais Déborah est là, que Jo est là, que je suis là... Et elle nous connaît, voyez, avec ce que nous sommes aujourd'hui, hein, dans nos vies, nos aspirations, etc. Et c'est important parce qu'elle connaît aussi déjà le cœur des auditeurs qui vont aussi suivre cet enseignement par les ondes, ceux qui le visionneront par Internet. Marie peut se rendre présente à chacun de ses enfants. Hein. Voilà, c'est une parenthèse que je referme, mais elle est importante. Et c'est aussi pour cela qu'on peut se mettre à l'école de Marie. Vous voyez, ce n'est pas, je dirais, abstrait. Ce n'est pas seulement une théorie. On va regarder un bel exemple et du coup, on va faire comme Marie. Non, être à l'école de Marie, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que, et c'est déjà beaucoup, de regarder Marie, de contempler sa vie, de nous mettre à son école, vous voyez, comme un exemple. Mais être à l'école de la maman, c'est plus que ça. C'est dans le présent, me laisser enseigner, éduquer au présent. Voyez, c'est pas seulement un modèle du passé que je regarde, qui est un magnifique modèle, qui est le modèle, hein, mais ce serait au passé, voyez. Ce n'est pas au passé, c'est au présent que Marie m'éduque, m'enseigne, prend soin de nous et prend soin de chacun de ses enfants. Et on a un magnifique témoignage de ce que je viens de dire ici à Lourdes, avec ce que Marie a vécu avec Bernadette. Alors vous allez me dire, oui, mais Bernadette, elle a vu Marie, elle a eu une apparition de Marie, elle a parlé avec Marie. Oui, ça c'est vrai que c'est assez exceptionnel, ça ne nous arrivera certainement pas, mais vous voyez, on n'en a pas besoin finalement. On n'a pas vraiment moins que Bernadette. On n'a pas vraiment moins que Bernadette. Ce que Marie a fait avec Bernadette, c'est-à-dire se rendre présente à Bernadette le 11 février 1858 et les jours qui ont suivi jusqu'au 16 juillet 1858. Hein, on va avoir dans deux jours cet anniversaire de la dernière apparition à Lourdes. Ce que Marie a fait en se rendant présente, voyez, à Bernadette, mais elle le fait dans nos vies. Elle le fait pas moins. Alors, ça prend pas tout à fait cette forme exceptionnelle d'une visitation, d'une apparition mariale, mais elle ne le fait pas moins. Et ce que Marie a fait avec Bernadette en termes de l'éduquer, la faire grandir, faire d'elle une disciple missionnaire, eh bien, Marie peut faire la même chose, fait déjà, évidemment, la même chose avec nous. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre grand chose aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on puisse, voilà, simplement peut-être se remémorer le grand don que Jésus nous a fait de sa mère, le grand don qu'il nous a fait, vous voyez, encore une fois, ce n'est pas au passé qu'il nous fait. Et comment nous pouvons vivre toujours davantage avec Marie. Je vais ouvrir une autre parenthèse. Encore une fois, ce sont les parenthèses qui sont les plus importantes. On parle parfois donc de la mission. Être disciple missionnaire, être en mission, devenir témoin, voilà. Tout ça, c'est très très bien. Mais la perspective que je vais prendre aujourd'hui, c'est d'entendre la mission de manière encore plus large. Parce que il y a un petit risque, lorsqu'on parle de mission, de témoignage, c'est de penser qu'il faut faire des choses. Or, bien sûr, on peut faire des choses, hein, pour annoncer le Seigneur, témoigner de l'Évangile, etc. Mais la mission, c'est pas d'abord faire quelque chose. C'est d'abord vivre. Votre vie de baptisé, est une mission. Votre vie est mission. Indépendamment des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, indépendamment de ce que vous allez faire. Le faire est important, mais voyez, il est second. Et c'est déjà très important d'apprendre de Marie que ma vie, telle qu'elle m'est donnée par Dieu, avec tout ce que je suis, ce qui fait aussi mon histoire, ce qui fait mes talents, mais aussi mes fragilités, mes limites, ma vie est mission. Et de ce point de vue-là, j'allais dire « je suis en mission parce que je suis ». Vous voyez ? Je suis en mission, je suis missionnaire parce que j'existe. Et parce que j'ai été baptisée, et parce que voilà, je suis quelque part un autre Christ par le baptême. Vous voyez? Donc, je vais refermer cette parenthèse, mais c'est une perspective importante pour moi. La mission, ce n'est pas d'abord de faire des choses, c'est d'abord de comprendre que parce que Dieu m'a donné l'existence et parce que Dieu m'a donné de surcroît la grâce d'être enfant de Dieu par le baptême, alors là, ma vie déjà est mission. Hein? Voilà. Et si on regarde la vie de Marie, ce que l'on va faire par petites touches, on voit très très bien ça dans la vie de la Sainte Vierge. Si je vous demandais qu'est-ce qu'a fait la Sainte Vierge, vous serez peut-être tout d'un coup bien embêté, parce que vous trouveriez des choses très très ordinaires en fait. Hein ? Qu'est-ce qu'a fait la Sainte Vierge ? Quelle a été la mission de la Sainte Vierge ? On va en reparler. Mais tout d'un coup, hein, on se retrouve devant une vie très simple finalement, très ordinaire aux yeux du monde, hein, très ordinaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut regarder Marie. Un prêtre me disait un jour, et je trouve ça très très fort et très profond, et je pense que c'est à recevoir comme une grâce. Ma vocation, c'est Marie. Ma vocation, ma mission, finalement, c'est Marie. Je crois que en Marie, nous avons vraiment le type, vous voyez, de ce qu'est être pour Dieu, être pour Jésus, être pour les autres. Et je crois vraiment qu'un baptisé, c'est vrai que sa mission, c'est Marie, quelque part. Je vous laisse cette phrase un petit peu presque énigmatique. Vous pourrez méditer sur cette phrase. Ma vocation, c'est Marie. Alors, je voudrais d'abord revenir sur la première expression, de l'expression donc disciple missionnaire. En regardant comment Marie s'y est prise avec Bernadette. Avant d'être missionnaire, Bernadette a été disciple. Elle a été disciple, Bernadette. Voyez, Marie a fait faire un processus de croissance, d'éducation à Bernadette au cours des apparitions, qui est pour nous un peu caractéristique de la pédagogie de Dieu, de la pédagogie de Marie. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'y revenir et de le creuser. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur toutes les 18 apparitions, mais simplement rappeler donc qu'il y a eu 18 apparitions entre le 11 février 1858 et le 16 juillet 1858. 18 apparitions, et dans ces 18 apparitions, il y en a déjà eu 12 avant la 13e. Alors, la 13e apparition, c'est l'apparition importante pour cette année, puisque c'est celle où Bernadette reçoit cette mission de faire quelque chose, aller dire aux prêtres que l'on construise une chapelle et que l'on vienne ici en procession. Donc, cet envoi en mission vers les prêtres, Bernadette la reçoit à la 13e apparition, le 2 mars 1858. Donc, avant, on a eu 12 apparitions. Je vais revenir sur ces 12 apparitions qui, à mon avis, nous montrent déjà qu'est-ce que ça veut dire être disciple. Et chez Bernadette, et donc chez nous aussi, être disciple, c'est tout un chemin baptismal, vocationnel, eucharistique. Les deux premières apparitions, elles sont silencieuses. Marie ne parle pas. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur chaque apparition, je pense que vous connaissez aussi assez bien, mais c'est intéressant de voir que les deux premières apparitions sont silencieuses. Alors on pourrait se dire, mais à quoi elles ont servi, à quoi ça sert de venir si on ne parle pas? À mon avis, les deux premières apparitions, dans ce cheminement de Bernadette, qui va être formée par Marie, dans sa vocation baptismale à devenir disciple de Jésus, disciple missionnaire dans l'Église, les deux premières apparitions, leur intérêt, un de leurs intérêts, c'est pas forcément le seul, mais ça a été de tourner Bernadette vers le ciel. Donc vous vous rappelez, le 11 février, il fait froid, Bernadette vient au bord du Gave, donc un petit peu loin du centre-ville de Lourdes, pour ramasser des vieux os et puis du bois, avec sa sœur et puis une amie. Elle vient donc dans cette grotte qui n'est absolument pas la grotte d'aujourd'hui en termes de propreté, c'est la grotte aux cochons, c'est un peu la décharge publique de Lourdes, enfin voilà. Donc c'est un lieu sale, obscur, sombre, humide, bon en plus en février, Voilà, donc là on n'est pas vraiment dans l'onction, mais imaginez un peu. Et Bernadette dans ce lieu qui est sale, qui est obscur, qui est mal famé, si vous voulez, qui est éloigné de la ville, etc., Bernadette va faire l'expérience de deux choses finalement. De la lumière, voyez, dans l'obscurité, la lumière. Et puis, la grotte, elle attire le regard vers le bas, je dirais. Vous voyez, on regarde le fond de la grotte pour trouver du bois. Donc, elle va faire l'expérience de lever les yeux, de passer de la terre au ciel, quelque part. Son regard va devoir s'orienter vers le ciel. Parce que la lumière vient du haut de la grotte, du creux du rocher. Donc, on passe de l'obscurité à la lumière. On passe finalement de la terre, en tout cas du fond, vous voyez, de cette grotte, à devoir lever le regard. Elle va devoir passer finalement à ce qui est immédiatement apparent. La grotte, il fait froid, ça sent mauvais, c'est sale, etc. À ce qui n'est pas immédiatement apparent, la présence de Marie, la présence du ciel, finalement dans sa vie à elle, Bernadette. Et puis, au-delà de la lumière, il y a cette petite demoiselle, cette belle dame, qui sourit. Elle ne dit rien, mais elle sourit. Et je crois que vraiment ces deux premières apparitions, vous voyez, silencieuses, où il y a finalement de la lumière, un regard qui se lève et un sourire, ça oriente Bernadette vers le ciel. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Le ciel, c'est le but. La lumière, c'est le but. Le sourire, c'est le but. Si vous voulez, Bernadette, elle venait de son cachot, hein, froid et humide. Elle était là dans sa grotte froide et humide, toute sale, etc. Je vous passe la misère, etc. Mais vous connaissez l'histoire de Bernadette. Et là, tout d'un coup, elle passe à une autre dimension. Mais une dimension qui est tout aussi réelle que c'est sale, c'est obscur, c'est froid, c'est la misère. Qui est plus réelle. Et ça, c'est très, très important dans notre cheminement personnel de foi. Voyez, le disciple, c'est celui déjà qui un jour a fait l'expérience dans sa vie, c'est exactement ça qui s'est passé dans l'évangile, des gens qui faisaient l'expérience de rencontrer Jésus, et en rencontrant Jésus, ils faisaient l'expérience d'une autre dimension. Ils oubliaient qu'ils étaient lépreux, ils oubliaient qu'ils étaient paralysés, ils oubliaient qu'ils étaient sous occupation romaine, ils oubliaient beaucoup de choses. Et il passait à une autre dimension, la dimension la plus importante, celle pour laquelle nous sommes faits, hein, celle vers laquelle nous allons. C'est extrêmement important de connaître le but. Et donc Bernadette, dans la rencontre avec Marie, dans la rencontre avec le sourire de Marie, sans un mot, voyez, elle passe de la terre au ciel. Alors elle va retrouver très très vite la terre, voyez, mais dans sa vie concrète, de jeune adolescente baptisée, tout d'un coup, il y a une dimension qui va s'ouvrir et qui est fondamentale. Exactement ce qui se passait pour tous ceux qui rencontraient Jésus et certainement la Sainte Vierge, je pense aussi, sur les routes de Galilée. Tout d'un coup, une dimension s'ouvre, la vraie d'une certaine manière, celle qui ne passera pas, hein, un sourire, une lumière, un bonheur qui est ma vocation, pour laquelle je suis faite et qui m'est promise et qui m'est déjà donnée. Donc, connaître le but, voyez, vers quoi nous allons. Et encore une fois, c'est à la fois le but, et en même temps, ce but, il est déjà là. Nous espérons tous aller au ciel, nous espérons tous être dans la gloire de Dieu comme Marie. Mais en même temps, le ciel, il est déjà présent au milieu de nous, dans la foi. On reparlera de la foi, c'est très important. Mais voyez, un disciple, c'est celui qui a fait une expérience, j'allais dire du ciel, de Dieu, de la lumière. On peut mettre finalement différents mots pour dire la même chose. Je suis fait pour le ciel, je suis fait pour Dieu, je suis fait pour la vie éternelle. Et Jésus nous dit bien dans l'évangile, hein, la vie éternelle est déjà commencée. Du moment où vous êtes venu à l'existence, et c'est pour ça que toute vie a un prix incalculable, quelles que soient les tribulations, les misères, les circonstances de notre vie sur terre, hein, toute vie, du moment que nous sommes donnés à l'existence par Dieu, c'est un don de Dieu. À ce moment-là, nous sommes déjà programmés, nous sommes dans l'éternité. Voyez, votre vie ne finira pas. La mort, c'est une étape, c'est un passage, évidemment. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Mais voyez, ce n'est pas une fin. C'est la fin de cette vie terrestre, mais ça nous ouvre à la plénitude de la vie que nous pouvons déjà vivre ici-bas. Voilà, donc les deux premières apparitions me semblent très importantes. Des apparitions, vous voyez, on pourrait se dire, bah, il ne s'est rien passé ou pas grand-chose, Marie n'a rien dit, passons à la troisième. Eh ben non, Marie a souri. Marie a comme attiré le regard de Bernadette et son cœur vers une autre dimension. Et c'est fondamental parce que si Bernadette va traverser tout ce qu'elle va traverser ensuite, y compris dans sa mission, c'est parce que elle a fait cette expérience première qui va lui donner, vous voyez, une force, une audace, une solidité dans la foi qui lui feront dépasser les difficultés, les épreuves, qui ne manqueront pas toute sa vie. Et donc pour nous qui sommes ici, pour nous baptiser, c'est la même chose. Ce qui peut nous aider à traverser cette vie qui est souvent une vallée de larmes, hein, comme on le chante dans le Salve Regina, c'est très vrai. Mais finalement, c'est cette expérience première à faire et à refaire, évidemment, hein, que je suis fait pour le ciel, que je vais vers le ciel, Dieu me sourit, Marie me sourit. Et si vous n'avez pas fait cette expérience, c'est vraiment une grâce à demander à Lourdes. De dire à Marie, mais alors moi j'ai besoin. Je crois que ce que dit la sœur là, ça me parle pas en fait. J'ai l'impression que je vois pas trop de quoi elle parle, c'est possible. Hein? Demandez à Marie. Viens me sourire, viens comme ouvrir dans ma vie terrestre cette fenêtre sur le ciel, d'une manière ou d'une autre. Voilà, en tout cas, deux premières apparitions qui sont sur le chemin de Bernadette disciple fondamentale. Elle sait où elle va, voyez. Et pour nous, c'est très important de renouveler notre foi, voilà, dans le but. Vers où je vais? Quelle est ma destinée? Une destinée qui est promise, qui est certaine. Certaine. Et du coup, je pense que le disciple, c'est celui qui, dans sa vie ordinaire, a le cœur tourné, centré et tourné vers les réalités du ciel, les réalités qui ne passeront pas. Hein? Des réalités, alors saint Paul dit, les réalités d'en haut. Hein? Chercher les réalités d'en haut, non pas celles de la terre. Voilà. Ben le disciple, c'est d'abord celui qui cherche les réalités d'en haut. Et c'est cette recherche-là qui transfigure celle de la terre. Parce que nous sommes bien sur terre, bien sûr. Hein? Mais voilà, le chrétien, le disciple qui suit Jésus à l'école de Marie, hein, c'est celui qui connaît le but et qui cherche les réalités d'en haut. Lorsque Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné de surcroît », voilà, c'est exactement beaucoup mieux dit, tout ce que je viens d'essayer de dire. Cherchez d'abord le ciel, cherchez d'abord le royaume de Dieu, le règne de Dieu, voyez, la gloire de Dieu dans vos vies et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et tout le reste sera comme aussi illuminé, même les difficultés, les souffrances, les épreuves qui ne manquent pas et qui ne manqueront pas. Voilà pour les deux premières apparitions, ce qu'elle m'évoque en tout cas aujourd'hui de vous dire. Marie qui tourne Bernadette vers le ciel par son sourire, par cette lumière, par le fait que cette grotte tout d'un coup n'est plus seulement la grotte aux cochons, mais qu'elle devient le ciel. Vous savez, Bernadette dira « la grotte c'était mon ciel ». Alors j'arrive à la troisième apparition. La troisième apparition, c'est la première où la Sainte Vierge parle pour inviter Bernadette, hein, « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Elle est importante, cette apparition, parce que, vous voyez, c'est la liberté de Bernadette qui est convoquée. On pourrait se dire « Ah ben Bernadette, elle a vu le sourire de la belle dame, elle a vu la lumière, c'est tellement beaucoup mieux que le cachot froid et obscur, c'est sûr, veut dire elle va revenir même si on lui demande rien. » Enfin, non. La liberté de Bernadette est convoquée. Bernadette, j'irai, n'est pas manipulée. De la même manière que Marie à l'Annonciation n'est pas manipulée. Bernadette, Marie à l'Annonciation, sa liberté était réellement convoquée par Dieu. Dieu attendait réellement le oui libre de cette jeune fille, de sa créature. Et donc, Bernadette fait le même cheminement. Vous voyez, Marie s'y prend d'une certaine manière, de la même manière avec Bernadette. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Bernadette, en répondant oui à cette invitation, elle ne sait pas ce qui va se passer pendant les 15 jours. Elle connaît pas tout le chemin à l'avance. Hein, et elle sera d'ailleurs surprise. Il y aura des fois des jours sans apparition. Bernadette sera là et pas la belle dame. Elle ne sait pas ce que la belle dame va lui enseigner, va lui faire faire, ce qu'elle va vivre, vous voyez. Elle est invitée, mais elle ne sait pas tout à l'avance. Marie, c'était exactement la même chose. À l'Annonciation, l'ange l'invite, l'ange lui demande si elle veut bien devenir la mère du Fils de Dieu, du Très-Haut. Mais Marie ne connaît pas tout le chemin. Qu'est-ce que ça va impliquer d'être la mère du Fils de Dieu? Marie, elle vit comme nous deux fois, vous voyez. Et donc, à la fois, elle invite Bernadette, elle attend son oui, et en même temps, il y a une part de foi, il y a toujours une part de mystère, il y a toujours une part où nous devons faire confiance à l'invitation de Dieu dans nos vies. Et c'est ça aussi être disciple de Jésus. Quand Jésus a appelé ses disciples, il leur a pas donné tout le programme à l'avance. C'est pour cela que la rencontre première est importante. Si Bernadette est capable de dire oui à ce moment-là, si Marie a dit oui, mais c'est parce qu'elle était sûre de Dieu. Et Bernadette, qui ne connaît pas encore beaucoup cette belle dame, dans son simple sourire, elle sait qu'elle peut lui faire confiance. Voilà, donc notre liberté est toujours convoquée. Elle n'est pas convoquée qu'une seule fois dans notre vie. Marie, elle a dit oui une fois à l'Annonciation, un oui décisif, si vous voulez. Hein? Fiat voluntas tua, qu'il me soit fait selon ta parole. Hein? Et en même temps, combien de fois Marie va redonner son fiat, va redire oui. Jour après jour, étape après étape, et souvent ces étapes, c'est épreuve après épreuve, parce que c'est vrai que quand tout va bien, en fait, bon, voilà, c'est facile de dire oui. Hein? Là où notre oui est à nouveau convoqué par Dieu, hein, notre confiance, notre foi, notre adhésion, c'est quand les événements paraissent contraires à la promesse de Dieu. Donc ça va être vrai dans la vie de Bernadette, ça va être vrai aussi dans la vie de Marie, évidemment. Alors, après cette troisième apparition, qui l'invitation qui ouvre la quinzaine des apparitions, il va y avoir plusieurs apparitions qu'on appelle les apparitions pénitentielles. Alors celles-là, on les aime moins. C'est vrai, hein, ces apparitions pénitentielles, elles vont être plus sombres, enfin plus sombres. Oui, même le visage de Marie, le visage de Bernadette, hein, en tout cas, les gens voyaient Bernadette et elle était comme un miroir. Hein. Le visage de Bernadette va, à certains moments, va s'obscurcir hein, et elle dira, la dame est triste, vous voyez, quand elle parle des pécheurs, etc. Et donc, c'est ces apparitions pénitentielles où Marie va inviter Bernadette à faire des gestes, un petit peu comme les prophètes de l'Ancien Testament, des gestes de pénitence. Hein, on va dire elle est folle. Donc vous rappelez, hein, je vais aller très très vite. Bon, d'abord il y a des paroles de Marie, pénitence, 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 priez Dieu pour les pécheurs. Et donc c'est cette parole là qui va se décliner aussi à travers la prière du chapelet à chaque apparition, priez pour les pécheurs, priez pour les pécheurs, va s'accompagner de gestes que Bernadette va faire à la demande de Marie. Hein. Donc il y a ce geste de manger de l'herbe au fond de la grotte là. Il y a ce geste d'aller gratter la terre, hein, aller boire à la fontaine et vous y laver, sauf qu'il n'y a pas du tout de fontaine, il y a juste de la boue, il y a juste des trucs de cochon, etc. Bon, et Bernadette va le faire, elle va gratter la terre. Et au début, il n'y a pas cette source que nous voyons aujourd'hui au fond de la grotte. Hein. Il y a vaguement, il y a de l'eau boueuse et Bernadette va la boire et Bernadette va se laver le visage, elle va sortir, voilà. Méconnaissable de la grotte, les gens vont dire elle est folle. Donc, vous voyez, on a toute cette démarche de pénitence. De scandale quelque part. Hein? Elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et là, Bernadette, pour elle-même, comme disciple, dans son cheminement de disciple, c'est ça le thème. Hein? Bernadette, dans son cheminement de disciple, vous voyez, elle est en train de communier quelque part à la sagesse de Dieu, qui n'est pas la nôtre, hein, cette sagesse de la croix. Bernadette, elle entre dans le dessein de Dieu, dans le dessein de salut de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans une des lettres de Paul, c'est fondamental, cette parole. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Marie veut que tous ses enfants soient sauvés. Et Bernadette, dans ses apparitions pénitentielles, voyez, elle entre dans ce désir du cœur de Dieu, dans ce désir du cœur de Marie. Elle entre dans le plan de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que, si on veut parler de missionnaire, hein, on va y arriver. Celui qui est missionnaire, il sert le dessein de salut de Dieu. Rien d'autre. De la même manière que Marie a servi le dessein de salut de Dieu. Hein, toute sa vie, chacun de ses oui, chacun de ses pas. Marie sert le plan de salut de Dieu. Elle accompagne le salut que son Fils est venu nous apporter. Et donc Bernadette, comme elle est en train d'être formée par Marie, voyez, elle fait l'expérience que le péché, oui, c'est quelque chose de grave. Oui, oui, on a besoin d'être sauvé. Il faut quand même le redire aussi aujourd'hui. On a besoin d'être sauvé. Le monde a besoin d'être sauvé. Et elle fait cette expérience pour elle-même et elle fait cette expérience que Dieu compte sur elle. Pénitence, priez Dieu pour les pécheurs, faites des sacrifices. Il n'y a pas directement ce mot ici à Lourdes dans les paroles, hein, mais dans les gestes qu'elle pose, on est à peu près sur cette dimension-là. Hein. Marie, qui a Fatima aux petits-enfants, leur demandera de faire des sacrifices. Je vais en reparler du sacrifice tout à l'heure. Mais voyez, c'est très important, être disciple à l'école de Marie, c'est rentrer dans ce désir du cœur de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Voilà, je vais passer finalement à la deuxième partie de l'expression disciple missionnaire, puisque là, finalement, de manière assez rapide, nous avons fait les deux premières apparitions, la troisième, et puis ce qu'on a appelé les apparitions pénitentielles, plus ou moins, qui arrivent, voilà. C'est les apparitions, j'ai plus exactement dans l'ordre, mais on arrive après la 13e apparition. Alors, missionnaire, disciple, donc je reprends. La première partie, c'était, voyez, avant d'être missionnaire, Marie a formé Bernadette à être disciple. Hein. Elle tourne son regard vers le ciel. Elle tourne son regard vers Dieu. Elle tourne son regard vers la promesse de Dieu. Ensuite, elle convoque sa liberté. Tout au long de ma vie, ma liberté sera convoquée dans la foi. Et puis, elle la fait rentrer dans le dessein de salut de Dieu. Une fois que je suis concernée par les pécheurs, une fois que je suis concernée par le salut, une fois que je... voyez, alors je peux devenir missionnaire. Donc, la 13e apparition, Marie envoie Bernadette en mission auprès des prêtres. Aller dire aux prêtres qu'on vienne ici donc bâtir une chapelle et qu'on vienne en procession. Alors mission missionnaire, hein, vous savez, c'est un mot qui vient du latin qui veut dire envoyer, hein, tout simplement. Comme le mot apôtre veut dire envoyer, c'est la racine, mais c'est en grec. D'accord ? Donc missionnaire, envoyer. On va commencer par là. Être missionnaire, voyez, c'est être envoyé. Encore une fois, c'est pas d'abord faire des choses, c'est être envoyé. C'est passif. C'est pas d'abord faire des actions. C'est pas d'abord être actif. C'est d'abord quelque chose de passif. Bernadette, elle est envoyée vers le curé Père Amal. C'est très important, ça. Cette dimension, je dirais, de passivité, qui est toujours une forme d'activité pour nous. Donc, à la fois c'est passif et à la fois c'est actif. Pourquoi? Parce que Bernadette, à l'invitation à aller dire au prêtre, elle va devoir répondre oui. Vous voyez? Donc, ce qui est passif, c'est l'envoi. J'accueille quelque chose qui ne vient pas de moi. Il y a une invitation de Dieu qui me précède. Donc, de ce point de vue-là, c'est passif. Je suis dans une disposition mariale qui est la disposition de l'accueil, de l'écoute. Et en même temps, encore une fois, Dieu convoque toujours notre liberté. Toujours. Donc Bernadette, là où son activité, sa liberté va rentrer en jeu, c'est que à cet envoi en mission, il va falloir quelque part répondre oui d'une manière ou d'une autre et puis y aller. Donc on va rester un petit peu sur cette 13e apparition, puis après j'élargirai en quittant un petit peu Bernadette. Donc aller dire au prêtre, donc Bernadette reçoit, encore une fois, elle ne se donne pas à elle-même sa mission, elle la reçoit de Marie, elle la reçoit de Dieu à travers Marie. Et c'est très important parce que vous voyez, parce que cette mission, elle la reçoit, elle va être forte dans la mission. Si on s'envoie soi-même, c'est très très humain. Et les obstacles vont devenir des montagnes. Bernadette, elle ne s'envoie pas elle-même. Et ça, c'est une force. Hein, dans la vie de l'Église, dans la vie ecclésiale, c'est très important. C'est une dimension d'obéissance, hein, d'obéissance, d'écoute. Hein, à Dieu à travers souvent des médiations dans l'Église. Alors ça peut être mon curé, ça peut être mon accompagnateur spirituel, mon supérieur de communauté, ça peut être des fois des événements, hein, qui sont comme des moyens par lesquels le Seigneur me convoque, voyez. Donc il y a une dimension d'écoute, d'obéissance, mais c'est vrai que ça donne une grande force, l'obéissance. Le fait que je me suis pas envoyé moi-même, j'ai pas inventé ma mission quelque part. Et ça va donner beaucoup de force à Bernadette, parce que vous connaissez pareil l'histoire, hein, aller dire au prêtre. Bon, elle y va, aller dire au prêtre. Le curé payera mal. Bernadette, elle le connaissait pas. Hein, il y avait des vicaires à Lourdes, et elle connaissait plutôt l'un des vicaires, l'abbé Poignant. Mais le curé payera mal, bon, à la stature douce des Pyrénées, elle le connaissait pas bien. Donc Bernadette va y aller, vous connaissez l'histoire, elle y va une première fois, elle y va une deuxième fois, il veut un signe, bon, etc. Vous voyez, moi je me dis, ce qui a donné la force à Bernadette, c'est ça, c'est que l'envoi ne venait pas d'elle. Alors ça va pas seulement lui donner de la force face au curé, ça va lui donner de la force En général, pendant toute la période des apparitions, et déjà avant, hein, « Voulez-vous me faire la grâce ?» C'est pareil, c'était un appel que Bernadette recevait. Pourquoi elle aura la force de venir pendant toute la quinzaine des apparitions, malgré qu'on la menace de prison, que ses parents veulent plus qu'elle y aille, que voilà, qu'elle se retrouve devant le commissaire, que c'est pas rien quand même. Ben, qu'est-ce qui donne de la force, de l'audace à Bernadette, voyez, c'est que il y a un appel, il y a une obéissance, un appel qui la précède et une obéissance. Et ça, c'est très important dans nos vies. Autre chose qui est assez significative de cet envoi en mission de Bernadette à la 13e apparition, c'est que une fois que la mission est remplie, que finalement, hein, le curé Peyramale va accueillir l'évidence à travers le nom de la belle dame, je suis l'Immaculée Conception, Bernadette va se retirer. Et elle ne s'accroche pas à sa mission. Et pourtant, je suis sûre que Bernadette, elle avait peut-être des idées sur qu'est-ce qu'il fallait faire à la grotte, comment est-ce qu'on aurait pu s'y prendre, c'est bien possible. Et voyez, on va pas vraiment lui demander son avis. On va lui demander son avis pour faire la statue. Oui, d'accord, bon, elle est ratée, mais c'est pas grave. Vous voyez, et Bernadette, elle lâche. Bernadette, à la fois, elle est envoyée, elle remplit sa mission, et après, elle sait se retirer. Et ça, c'est très, très important pour un disciple missionnaire à l'école de Marie. Il sait remplir sa mission et lâcher, se retirer. Bernadette, elle va aller se cacher, hein, d'abord à l'hospice de Lourdes, hein, chez les Sœurs de la Charité de Nevers, elle va aller se cacher. Et pendant ce temps-là, ça s'active, ça s'agite à Lourdes, hein, ça y est, les grands de ce monde et les autorités, tout le monde a pris sa place et Bernadette se retire. Voyez, et puis elle ira encore plus loin, parce qu'après s'être cachée à l'hospice de Lourdes, elle va finalement quitter Lourdes, hein, pour ne plus jamais y revenir, et elle dira « Ma mission est finie à Lourdes. Ma mission est finie à Lourdes. » C'était pas sa vie de disciple missionnaire qui était finie, mais cette mission-là était finie à Lourdes. Et la mission de Bernadette et sa vie de disciple à l'école de Marie, elle va continuer à Nevers, complètement autrement. Bon, elle aura des occasions de témoigner de temps en temps, sera toujours une croix pour elle, mais sa mission va continuer, sa vie de disciple va continuer, se déployer, je dirais jusqu'à aujourd'hui. Hein? Vous voyez, mais elle a su remplir sa mission avec l'audace qu'il fallait, la force qu'il fallait, assez incroyable quand on regarde de près, et elle a su se retirer. Elle a su voir que la statue était ratée, que c'était pas finalement si grave que ça, que le bon Dieu passerait quand même. C'est vrai. Peut-être que, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. J'aurais peut-être dit, attendez, vraiment trop laide cette statue, faut la refaire. Bernadette, elle l'a dit, bon, c'est pas ça. Pourquoi vous lui avez fait un gloître? Bon, d'accord. Et une fois qu'elle a eu dit ça, bon, elle a pas insisté au final, voyez, parce que quelque part, elle était, voyez, elle avait cette juste attitude très mariale. De faire ce qui lui avait été demandé et de savoir lâcher. De savoir croire que Dieu avait besoin d'elle, avait voulu avoir besoin d'elle. Oui, Dieu a besoin de nous. Et en même temps, mais Dieu après, il va se débrouiller. Et de fait, la statue, elle est ratée. C'est toujours la même dans la grotte quand même. Et c'est pas grave. On lève notre regard vers la statue et Marie est là. Dieu passe au-delà des imperfections humaines. Mais nous, souvent, on est très perfectionnistes, on voudrait, si, Seigneur, je vais faire ma mission, mais il faut que ce soit bien fait, etc., etc. Bon, on n'a peut-être pas tous le même tempérament, mais quand même. Puis on s'accroche, puis ça devient finalement notre mission, puis notre œuvre. C'est pour ça que tout ce qu'on a dit avant est très important. Le missionnaire, il est au service, je vais en reparler, du dessein de salut de Dieu. Il n'est pas au service de, je sais pas quelles idées de perfection, de, ce serait bien que dans l'église ce soit comme ci, comme ça, etc. Non. Vous voyez? Et je crois qu'à l'école de Marie, on apprend ça. On apprend à la fois à être pleinement nous. Bernadette, quand elle est allée voir le curé, c'était Bernadette. C'était pas quelqu'un d'autre. Elle y est allée comme elle était, elle, Bernadette. Avec son caractère, avec ce qu'elle était. Vous voyez? Donc c'est à la fois bien moi, qui vais quelque part remplir cette mission, et en même temps, le Seigneur, si vous voulez, il joue avec nous. Il est bien plus grand que nous. Donc, on doit apprendre, et comme Marie, à faire, à lâcher, à dire au Seigneur, mais oui Seigneur, c'est toi. On a la même histoire avec Sainte Faustine, hein. Vous connaissez l'histoire de Sainte Faustine, donc elle a une apparition de Jésus qui lui dit, tu vas peindre ce tableau. Elle dit, mais moi, je sais pas peindre. Très bien, donc elle va faire peindre le tableau à un peintre. Bon, ben pareil, quand elle va voir le tableau, elle va dire, oh là là, c'est pas vraiment ça. Et Jésus va lui dire, mais c'est pas grave. Tu vois, la vertu, la grâce de ce tableau n'est pas dans sa réussite, n'est pas dans sa perfection artistique, hein, dans sa perfection, oui, on peut dire artistique. Elle est dans ma grâce. Donc, vous voyez, un disciple missionnaire, c'est très important parce que nous sommes aussi dans le monde qui nous environne, hein, et on est dans un monde où une des valeurs premières, c'est l'efficacité. C'est la réussite. Parfois, le disciple missionnaire, sa réussite, ce sera de rater. Regardez Jésus sur la croix, et vous avez tout compris. Aux yeux du monde, il a tout raté. Voilà. Mais, je reviens encore, si on regarde le dessein de salut de Dieu, alors, voilà, on rentre dans une sagesse qui n'est pas la nôtre. Voyez, et c'est très, très important pour nous de faire ce chemin qui est progressif, hein, de conversion. C'est un retournement, hein, entre notre sagesse humaine spontanée. Et spontanément, on a des très, très belles réactions. On a de très belles idées, plein de belles initiatives. Mais, il faut s'arrêter un instant et vérifier avec Marie. Est-ce que c'est même si c'est une bonne idée, une belle initiative pour ma paroisse, pour mon groupe de prière, etc. Ou est-ce que c'est vraiment de toi, Seigneur? Oui. Comment je sais, à l'école de Marie, c'est pour ça que pour moi le secret c'est Marie, vous savez, parce que regardez comment Marie s'y prend. Hein, elle va jamais trop vite, la Sainte Vierge. Elle prend le temps d'écouter, elle prend le temps de faire mémoire, elle prend le temps, voilà, d'écouter le Seigneur. Voilà, donc je reviens encore sur Bernadette et on va terminer avec notre petite Bernadette qui intercède pour nous. Vous voyez, Bernadette qui a su remplir pleinement sa mission, une fois qu'elle était remplie, elle a su se retirer. Ça ne veut pas dire que c'était pas dur pour elle, hein. Moi, j'imagine que Bernadette, voilà, comme chacun de nous, pouvait souffrir de certaines choses. Elle pouvait, bon, voilà. Mais non, ma mission est finie à Lourdes. Et sa mission va continuer autrement. Et ça, après, on va en parler. La mission de Bernadette, ça a été à un moment donné de parler, de témoigner. Ça a été aussi de se taire. La mission de Bernadette, ça a été aussi ensuite, tout simplement, de prier, de s'offrir, de souffrir. C'était une mission. Hein, vous connaissez sa vie à Nevers, hein, très, très brièvement. Bernadette, elle avait vaguement appris à lire et à écrire quand même après les apparitions. Elle avait fait sa première communion, bien sûr. Ça, c'est très, trop long d'en reparler. Mais ensuite, à Nevers, elle restait quand même une sœur qui était un peu, on disait bonne à rien, en fait. C'est cool, hein. Carte de visite, religieuse, bonne à rien. Et donc, quand elle a fait sa profession, au lieu d'être envoyée dans une des missions des sœurs de la charité de Nevers pour s'occuper des enfants, des malades, des vieillards, etc., Bernadette, elle est restée à la maison mère, comme si elle quittait jamais le noviciat, voilà. Elle est restée à la maison mère et l'évêque, comme la mère supérieure savait pas trop quoi lui confier comme emploi, heureusement l'évêque, avec un peu de sagesse, lui a dit, je vous donne l'emploi de la prière. Donc, vous voyez, c'est très beau. L'église, par cet évêque, va lui donner sa mission. Et Bernadette, elle va pas chercher une autre mission. Même si des fois, on voit bien Bernadette, ça la travaille, hein. Elle aimerait bien être utile. Alors elle rend service. Et vous savez, hein, elle va avec son asthme, elle est de plus en plus malade. Donc finalement, au début, elle était aide infirmière. Donc là, elle était trop contente. Elle est comme nous, Bernadette. Elle a envie d'être utile. C'est dur de sentir qu'on est un poids, qu'on est à charge. Hein. Donc Bernadette, elle avait envie d'être utile. Et elle avait raison. Hein. Et elle va, et en même temps, elle va apprendre à la fin de sa vie que même là où elle pouvait être utile, finalement, elle est plus tant que ça. La supérieure va lui dire, écoutez, maintenant, vous y restez à l'infirmerie parce que finalement, vous êtes plus souvent malade que utile. Elle l'a pas dit comme ça, j'ai plus les termes, mais voyez, Bernadette, c'est son chemin. C'est un chemin aussi, tu vois, de conversion. Pour comprendre petit à petit que non seulement sa mission, c'était la prière, mais c'était l'offrande, le sacrifice, à être inutile aux yeux des hommes, hein, mais être très utile, très féconde pour le royaume. Je reviens toujours au dessein de salut de Dieu. Ce qui compte, c'est que le dessein de salut de Dieu s'accomplisse, qu'il soit servi. Et Bernadette, à travers toute sa vie, à Nevers, pas très longue d'ailleurs, et puis sa souffrance, sa maladie, sa mort précoce, Bernadette, elle sert le dessein de salut de Dieu. Voilà, donc on va terminer avec Bernadette. Peut-être que j'y reviendrai parce que j'aurai tout d'un coup une parenthèse. Mais je voudrais peut-être un peu synthétiser des choses que j'ai dites, mais je les ai dites de manière un petit peu éclatée. que je vais dire là est vrai pour toute cette dimension, on va dire, de la mission. Et vous avez compris que la mission, c'est pas seulement faire des choses, mais c'est être, hein. C'est profondément être à l'écoute, comment le Seigneur, à travers ma vie quotidienne, finalement, me demande de servir son dessein de salut. Et ça peut passer par des tas de choses, hein. Bien sûr, ça va pouvoir passer par le témoignage explicite. Je suis à la caisse d'une grande surface et tout d'un coup, je sens qu'il faut que je parle à la vendeuse, à la caissière. Ben, pourquoi pas? Il peut y avoir des motions intérieures comme ça qui... Alors ça sera peut-être simplement, non, je lui parle pas, mais je vais lui faire un grand sourire. C'est déjà ça. Donc, vous voyez, encore une fois, j'aimerais que vous compreniez que la mission, c'est pas d'abord de faire des grandes choses, d'avoir un titre dans votre paroisse, d'être ceci, d'être cela. Ça peut passer aussi par ça, évidemment. Mais c'est bien plus ordinaire que ça et bien plus fécond, j'allais dire, que ça. Hein. À l'école de Marie, c'est tous les jours, c'est à chaque instant. Et c'est d'abord votre vie telle qu'elle est. Avec cette obéissance au Seigneur à travers les événements et des oui répétés à ce que le Seigneur dispose dans notre vie. Dans les joies, dans les peines, dans des choses qu'on n'a pas choisies, dans des choses qui nous contrarient. Hein. Dans des choses qu'on peut nous demander aussi, effectivement, qu'on n'avait pas envisagées. Bon, ça passe par des multitudes de choses. Mais voyez, le fond, ce qui est important, c'est les dispositions mariales. Les dispositions mariales. Je reviens au baptême. Disciple missionnaire, c'est la vocation baptismale, tout simplement. Hein. Au baptême, on a été fait prêtre, prophète et roi. Je commence par le roi. La dimension royale de ma vie, de baptiser, hein, c'est le service. Celui qui est roi ou qui est reine dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert. Jésus, il est roi, c'est le roi et c'est celui qui nous sert. Marie, c'est la reine de l'univers, reine des anges, c'est la reine du monde, et c'est celle qui nous sert. Marie, Jésus, ils servent le dessein de salut de Dieu. Jésus est venu servir, hein, le plan d'amour de son Père. Il est venu dans le monde pour que tous les hommes soient sauvés. Marie, elle a dit oui, et elle est devenue la mère de Jésus, notre mère, parce qu'elle est rentrée dans ce dessein de Dieu sur l'humanité. Voilà. Donc nous, petit roi, petite reine, hein, par le baptême, nous devons devenir serviteurs du dessein de salut de Dieu. Chacun peut demander au Seigneur, « Seigneur, comment est-ce que je sers ? Comment est-ce que, finalement, je suis roi, je suis reine avec toi ? Comment est-ce que je sers ce plan de salut dans là où je suis, dans l'Église ? Là où je suis, dans ma famille, dans mon travail, dans ma paroisse, dans mon quartier, là où je suis. Comment est-ce que je sers le salut de Dieu ? Regardez Marie à Cana, c'est très intéressant. Elle va transformer les serviteurs de ce mariage de Cana. C'est une parenthèse. Elle va transformer les serviteurs, qui étaient que des serviteurs, hein. Enfin, et ils faisaient leur job, quoi. Elle va les transformer en artisans d'un miracle. La classe, quoi. Et elle va comme surélever le service. Et regardez comment elle s'y prend. On va retrouver ce que j'ai dit tout à l'heure. Marie, elle va voir Jésus. Elle commence par aller voir Jésus, d'accord? Bon, déjà, elle a repéré, ils n'ont plus de vin, très bien. Bon, et elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ça ressemble beaucoup à aller dire au prêtre, quoi. Enfin, vous voyez, ils n'ont plus de vin. Jésus, ils n'ont plus de vin. Alors, apparemment, bon, Jésus, il a l'air de pas vraiment voir le drame de la situation. Ils n'ont plus de vin. Bon, d'accord, mon heure n'est pas encore venue. Bon. Regardez, Marie, elle connaît bien Jésus. Donc, ils n'ont plus de vin. Elle fait sa mission quelque part. Sa mission de maman, sa mission de servir la joie des noces et de servir aussi la mission de Jésus. Parce qu'il faut bien que ça démarre un jour. Hein? Donc, ils n'ont plus de vin. Et elle se retire. Elle n'insiste pas. Hein. Alors, elle n'insiste pas auprès de Jésus, mais elle va voir les serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Hein. Donc, faites tout ce qu'il vous dira. C'est une phrase clé, évidemment. Attitude mariale, d'écoute, d'accueil, d'obéissance, de disponibilité. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça paraît rien comme ça, mais les serviteurs, ils savent pas ce que Jésus va dire. Marie, elle sait peut-être pas elle-même. Vous voyez? Il fallait être quand même drôlement, je dirais, disponible confiant pour accueillir que remplissez d'eau les jarres, quoi. À les puiser. Franchement, ils étaient vraiment disponibles. Mais bon, il y avait Marie qui était passée par là avec sa grâce mariale, vous voyez. Donc, à l'école de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Les serviteurs sont prêts, finalement, en une parole, là, comme le sourire de Marie à la grotte. Ils sont prêts à faire des choses un peu folles. Et Marie se retire. Et elle n'insiste pas, elle dit pas, faites tout ce qu'il vous dira, même si c'est pas très raisonnable. Ça, non, faites tout ce qu'il vous dira. On a presque l'impression que Marie, elle dit, faites comme moi. Faites comme moi. Et puis on a presque la suite. Et vous verrez de grandes choses. Hein? Vous voyez le Magnificat? Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Tout ce que Marie nous enseigne, elle l'a vécu avant. Hein? Un oui, il se penche sur son humble servante. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Ben, nous aussi, tous les âges nous diront bienheureux. Hein? Parce qu'on est le peuple de petits, de pauvres, le peuple des béatitudes qui est formé par Jésus, formé par Marie, pour servir le plan de salut de Dieu. C'est ça la mission. Donc, on est roi par le baptême. Roi avec Jésus. Le service. Comment est-ce que je sers le plan de salut de Dieu aujourd'hui dans ma vie? C'est peut-être en priant, en intercédant, en donnant un sourire, en témoignant explicitement, en rendant un service. Deuxièmement, la dimension prophétique. Prêtre, prophète, roi. Vous avez vu, j'ai pris les choses à l'envers, donc roi et maintenant prophète. Prophète, dans la vocation de prophète, il y a beaucoup de choses. Il y a ce que fait Bernadette à la grotte. Sa vie, ses gestes sont prophétiques, c'est-à-dire ils annoncent quelque chose du royaume de Dieu, du plan de Dieu, de la sagesse de Dieu, et pas comme on s'y attend. Notre vie doit devenir prophétique. La vie d'un chrétien, elle doit interroger, interpeller. Et ça peut être par des choses très très simples, mais c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, j'allais dire, c'est pas difficile d'exercer la dimension prophétique. C'est pas difficile. Décider de sourire systématiquement à toutes les personnes que vous rencontrez dans la journée, ça va déjà donner quelque chose. Hein? D'adresser la parole aux gens que vous croisez, dans les transports en commun, voilà. Un chrétien, il est prophétique parce que dans son cœur, il a Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu aime chaque homme. Celui que je croise, il le sait peut-être pas. Je vais peut-être pas pouvoir lui annoncer explicitement, mais il faut que quelque part dans mon cœur, moi, je le sache et je le crois pour lui. Alors ça passe par le sourire, ça passe par la prière, ça passe parce que dans votre cœur, vous allez bénir telle personne. Voilà, c'est très concret. Vous trouverez des occasions, mais c'est ça, disciple missionnaire à l'école de Marie. Et donc être prophète, c'est avoir une vie qui interpelle. Des fois, ça dérange les autres, le prophète. Parfois, ça va juste donner envie. Mais d'une certaine manière, votre vie doit devenir une parole. C'est ça, le prophète. Des fois, il ne dit rien. Les prophètes parlent, mais ils font des gestes aussi. Bernadette, lorsqu'elle est au fond de la grotte à gratter la boue et à se barbouiller parce que la Sainte Vierge l'a demandé, elle va rien dire. Ensuite, elle va dire « c'est pour les pécheurs » parce qu'on lui demande quand même des explications. « C'est pour les pécheurs ». Mais voyez, au départ, il y a des gestes qui interpellent, qui choquent. Ben, la vie d'un chrétien, quelque part, elle doit choquer dans le bon sens du terme. Voyez, elle doit interpeller. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose à chercher. Il y a la manière d'être, il y a la manière de s'habiller, il y a la manière de parler. Voilà. Et bon, à l'école de Marie, vous trouverez. Vous faites ça avec la Sainte Vierge. Voilà, dimension prophétique de notre mission baptismale. Encore une fois, c'est pas d'abord faire des choses, c'est être. Et puis la troisième dimension, la dimension sacerdotale. Donc, hein, nous sommes rois, nous sommes prophètes, nous sommes prêtres. La dimension sacerdotale de la mission baptismale, c'est une mission aussi. Le prêtre à la messe, il rend Jésus présent. Nous avons à rendre Jésus présent dans le monde, par notre manière d'être, par notre manière de parler, par notre manière aussi de prier. Je suis peut-être dans un milieu où Dieu n'est pas présent, dans mon travail. Comment est-ce que finalement, parce que moi je suis là, Dieu est là au milieu? Poserai la question à la Sainte Vierge, elle vous montrera. Rendre Dieu présent là où je suis. Et aussi, le prêtre, c'est celui qui offre le sacrifice. Le prêtre offre le sacrifice de Jésus. Ce mot-là, on ne l'aime pas beaucoup, mais une fois que je vous aurai donné l'étymologie, vous allez beaucoup l'aimer. Le sacrifice, hein, ou sacrifier, ça vient du latin sacer, facere. C'est le fait de rendre quelque chose sacré. Donc, effectivement, le chrétien, comme prêtre, il a à, je dirais, rendre sa vie sacrée, sacrifier sa vie, la livrer à Dieu, l'offrir à Dieu pour qu'elle devienne quelque chose de sacré. La vie d'un chrétien, quelle que soit toute votre vie ordinaire, vos actions, vos pensées, etc., en l'offrant à Jésus, vous pouvez en faire quelque chose de sacré, un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de louange. On l'a entendu hein, dans tous ces textes, l'épître de Pierre, hein, l'épître de Paul aux Romains. Faites de votre vie un culte hein, spirituel, un sacrifice, une offrande à Dieu. Donc toute ma vie, à l'école de Marie, en passant par Marie. Marie va nous apprendre à faire de toute notre vie, de toutes les actions, les pensées, de nos journées, les joies, les peines, quelque chose de sacré. Alors, bien sûr, dans le sacrifice, il y a la notion aussi de souffrance. Oui, parce que quand on lâche quelque chose, quand on le donne, ça nous coûte, ça peut nous coûter quelque chose. Voyez. Mais dans le sacrifice, il y a aussi de la joie. Et en tout cas, comme chrétiens, nous avons aussi à redécouvrir le sens du sacrifice, de l'offrande, et aussi de celle qui nous coûte. Alors, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il y a tout ce qu'il faut dans notre vie. De choses qui nous coûtent, hein, de souffrances, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, morales, spirituelles, mais ne perdons pas une petite occasion d'offrir, voyez, d'offrir, donc de rendre notre vie sacrée, hein, d'exercer notre mission sacerdotale. Et un dernier aspect du sacerdoce, c'est l'intercession. Jésus est le grand prêtre qui intercède pour nous, hein, auprès de Dieu. Le prêtre, par l'ordination, il intercède pour le peuple chrétien. Nous, comme baptisés, comme prêtres, nous avons aussi à vivre cette dimension de l'intercession. Et on revient au fait qu'être disciple missionnaire à l'école de Marie, vivre comme Marie, c'est entrer pleinement et servir le plus possible le dessein de salut de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu nous aime. Et je reviens au début de ce que j'ai dit au début, vous voyez, Marie est là dans la gloire qui nous attend. La vallée de larmes, ça n'aura qu'un temps. Mais la vallée de larmes, elle est très importante parce que chaque larme a du prix pour Dieu. Il y a un psaume qui dit « Recueille mes larmes dans ton outre. » N'en perds aucune. Donc ne perdez aucune occasion, aucune joie et encore plus aucune peine hein, de faire de votre vie une vie pleinement baptismale, à la suite de Jésus, à la suite de Marie, pleinement missionnaire. Je pense qu'on a davantage compris ce que ça veut dire aussi être missionnaire. Ça n'exclut encore une fois pas du tout des actions plus concrètes, hein, des missions qui peuvent être faites dans l'Église, une manière de témoigner concrètement, de s'engager. Je ne peux que vous engager, oui, à vous engager aussi de manière concrète, parce que l'Église a besoin de notre engagement. Mais vous voyez, avant cela, chaque fois que je me lève le matin, chaque fois que je me couche, je suis missionnaire. Ma vie est une mission.
Disciple missionnaire à l'école de Marie, vous venez de suivre une conférence de Sœur Claire du Rédempteur, conférence enregistrée en juillet 2022 lors du pèlerinage de la communauté des Béatitudes à Lourdes.